On va continuer dans notre étude de l'évangile de Luc. On est à la fin de l'évangile de Luc, dans le dernier chapitre du moins. Luc chapitre 24. Nous sommes, pour replacer le contexte, Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau. Les femmes qui avaient voulu préparer son embaumement, son corps pour sa sépulture, ont été interrompues par la célébration du sabbat. Et le dimanche matin, le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi, c'est le dimanche, elles se rendent à la tombe et là, elles voient que la pierre a été roulée et que Jésus n'est plus là. Et elles sont interpellées par deux hommes qu'on pense être des anges qui leur disent qu'elles ne doivent pas le chercher le vivant parmi les morts. Gardons-nous de chercher le vivant parmi les morts. Aujourd'hui, on fête le 70e anniversaire de l'armistice. On a des cérémonies commémoratives. On voit des monuments aux morts, des cérémonies en l'honneur de ces morts. Et c'est bien de respecter leur mémoire, mais n'allons pas croire que Jésus fait partie de ces personnes mortes pour faire du bien, mais qui sont toujours dans la tombe. Non, le tombeau est vide. Jésus est vraiment ressuscité. Il a tout pouvoir aujourd'hui. Lorsqu'il est descendu sur terre, il s'est pour ainsi dire dépouillé de ses prérogatives divines. Il les a mis entre parenthèses pour vivre une vraie vie d'homme. Les miracles, les choses fantastiques qu'il a pu faire, il les a faites par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est disponible ou qui veut venir en nous, qui veut venir nous fortifier, nous donner la puissance de témoigner de Jésus avec des résultats. Et ces femmes, elles reviennent voir les disciples qui se réfugiaient, qui se cachaient en quelque sorte. Et les disciples, leur première réaction, c'est que c'est des imbécilités de femmes, les machos. Ils pensent que ce sont des niaiseries et ils ne crurent pas à ces femmes. Pierre, quand même, va voir ce qui se passe. Et lui, il constate que les femmes ont bien décrit ce qui s'est passé, ou du moins ce qu'elles ont constaté. Il le constate lui aussi. Et il est dans l'étonnement. Il est perplexe. On a vu que dans le récit de Jean voit le même tombeau vide. Il arrive même un peu avant Pierre parce qu'il était plus en forme pour courir. Et lui, quand il a vu ce qui s'était passé dans le tombeau, que le tombeau était vide, lui, il est dit tout de suite qu'il a cru. On a parlé de ça dimanche dernier, je vous renvoie à l'étude. Mais maintenant, on va assister à une autre rencontre sur la route d'Emmaüs. Emmaüs, le mot veut dire mule. Et quand on pense à mule, on pense à tête de mule. Et c'est vrai que les hommes ne doivent pas avoir une tête de mule lorsqu'il s'agit de parler du récit de la vie de Jésus-Christ ici-bas, de ce que nous apprend la Bible. Parce qu'on a tous les éléments en notre possession ou à notre portée pour avoir une foi éclairée, une foi réelle dans le vrai Dieu et en Jésus-Christ. Mais si on fait notre tête de mule, si on refuse de croire, alors on ne croira pas. On verra en passant que Jésus va reprendre ces deux personnes qui se trouvent sur la route d'Emmaüs avec lui, qu'ils n'ont pas reconnues. Il les traite d'imbéciles. Il dit, verset 25, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Apparemment, il manque d'intelligence ou de compréhension, il ne rassemble pas les faits qui sont en leur connaissance, qu'ils connaissent. Mais surtout, le problème, c'est le cœur. C'est le cœur qui est lent. Ils font leur tête de mule sur la route de la tête de mule, sur la route de la mule, du village de la mule. Parce que le problème, bien souvent, avec ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ et en son salut par la foi, c'est pas parce qu'il manque des éléments historiques, des éléments logiques, des éléments factuels, mais c'est parce que leur cœur est rebelle. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres de leur destin. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Ils ne veulent pas reconnaître dans leur cœur qu'il y a un Dieu qui les aime et qui a tout fait pour les sauver. On va lire ensemble ce passage qui est un passage clé de l'Écriture. Parce qu'il connecte en fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne sont pas trop au fait de la Bible chrétienne, de la Bible, il y a deux parties, l'Ancien Testament, et puis après un temps de silence où Dieu n'a pas parlé pendant près de 400 ans, il y a le Nouveau Testament, la description de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a enseigné, raconté par différentes personnes inspirées par le Saint-Esprit. Et souvent, des églises vont dire, mais nous, on est une église néo-testamentaire. Ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça c'est la Bible des Juifs. Mais nous, on est dans le Nouveau Testament, on est moderne, que diable, on est au 21e siècle, on ne va pas se casser la tête avec des vieilleries qui datent de 2000, 5000 ans ou 1500 ans, des récits qui sont dans une culture différente. Et pourtant, on voit dans ce passage que tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament est réalisé dans le Nouveau Testament. Il y a encore des choses à réaliser, mais la réalisation de tant de prophéties peut nous donner, nous donne, devrait nous donner, si notre cœur n'est pas hostile, si notre cœur ne fait pas la tête de mule, devrait nous donner toutes les raisons de penser, de croire en Jésus-Christ. Il y a une harmonie incroyable entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On dit que l'Ancien Testament, Jésus annonce ce que le Nouveau Testament nous révèle et que le Nouveau Testament révèle donc ce qui était caché dans l'Ancien. Alors caché, c'est un mot de tête de mule, parce que ce n'est pas si caché que ça. En fait, l'Ancien Testament est référencé sans cesse dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on voit cette harmonie, cette concordance des faits et des annonces et des prophéties et de leur réalisation, on ne peut qu'au moins s'émerveiller. Parce que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, entre les premiers écrits et les derniers, sur trois continents, en trois langues, par plus de 50 personnes de tous les milieux sociaux, et pourtant il y a une harmonie absolument fantastique. Et cette harmonie, on sait qu'elle n'a pas pu être agencée, manigancée, manipulée par les hommes. Les hommes qui avaient écrit étaient morts depuis bien longtemps. Et en même temps, là, on va voir que Jésus lui-même nous dit qu'il faut, si on ouvre le cœur, notre cœur, on va comprendre que l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Jésus, c'est le thème central de la Bible. La Bible, ce n'est pas un ensemble de valeurs chrétiennes, comme aujourd'hui on se gargarise des valeurs républicaines, Ça ne veut rien dire, ça. La République, c'est pas une personne. La République, c'est pas la statue de Marianne, c'est pas une idole. Là, on a quelqu'un de vivant aujourd'hui qui nous a donné sa volonté pour les hommes, qui nous a expliqué le problème du péché et la solution que Dieu a amenée en la personne de Jésus-Christ. Lisons ensemble à partir du verset 13. Et voici que ce même jour, donc on parle souvent du matin de Pâques, là c'est l'après-midi de Pâques, ce même jour, deux d'entre eux, parlant des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça fait à peu près 11 à 12 kilomètres, ou certaines traductions disent à 2 heures de marche à peu près. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est une scène que vous pouvez bien imaginer dans votre tête. Alors, on ne fait pas de la visualisation moyenne nouvel âge. Non, c'est essayer, quand vous lisez la parole, de vous mettre à la place des personnes qui sont là. Et donc, il y a ces deux personnes qui marchent sur la route et Jésus qui vient vers elles, qui les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qu'il s'y est produit ces jours-ci ?» Remarquerez l'ironie, il parle de Jésus-Christ en disant « Mais tu n'es même pas au courant de ce qui s'est passé ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Homme sans intelligence ». Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Passage assez connu, souvent étudié ou mentionné pour la fête de Pâques. Et donc on voit ces deux disciples, ils ne faisaient pas partie du cercle restreint des 11 apôtres, maintenant que Judas n'était plus là. Ils n'étaient pas célèbres. On connaît le nom de l'un d'entre eux, Cléopas, probablement parce que c'est lui qui a relaté cette expérience à Luc. La Bible est inspirée par l'Esprit Saint. Les hommes écrivent sous sa dictée, mais ils ont aussi des sources humaines qui leur donnent des informations que l'Esprit Saint prend pour les formater et les rendre avec leur personnalité. Mais sans doute, ce Cléopas, c'est le seul dont on a le nom. C'était quelqu'un qui était un des disciples à la périphérie. Ce n'était pas quelqu'un de vraiment spécial dans le groupe de Jésus. Ça doit nous encourager que Jésus se révèle, Jésus vient parler, Jésus vient s'entretenir avec tous les hommes qui l'acceptent, qui l'accueillent. Et il n'y a pas besoin d'être un grand prédicateur, un grand évangéliste, un grand expert en langue biblique ou en archéologie biblique pour que Jésus vient nous parler. Jésus s'intéresse à chacun et à chacune de nous. On vit dans un monde où justement seuls les grands ont de l'attention, où on se préoccupe de leur sort. Leur vie est exposée dans les magazines. Puis nous, on se dit, bon, on est des petits riens, et c'est vrai que de nous-mêmes, nous ne sommes pas grand-chose. Une maladie, un accident, et ouf, on s'en va, on est parti. Mais parce que nous avons une relation avec le Dieu vivant, alors nous comptons. Et Jésus veut se révéler à chacun et à chacune de nous. On peut chercher par la prière, par la lecture de la parole, par la communion fraternelle, par l'Église, par une relation individuelle avec lui, on peut chercher à être proche de lui, et Jésus ne se cache pas. Alors vous allez me dire, mais là apparemment, il s'est caché d'eux. Alors il y a plein de suppositions. Certains disent que c'est parce que son visage avait été tellement abîmé par les souffrances qu'il avait endurées à la croix, qu'il était méconnaissable. Mais là, il semble que ce soit plus un aveuglement spirituel, un aveuglement miraculeux qui fasse qu'il ne le voit pas, qu'il ne le reconnaisse pas. Ils sont tellement loin d'imaginer que les promesses qu'il a faites de restaurer son corps en 3 jours, d'être vivant de nouveau, ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont jamais vraiment intégré. Alors on peut leur jeter la pierre en disant, bande d'imbéciles, homme sans intelligence, avec un cœur qui est lent à croire. Mais est-ce que nous, on a une relation vivante avec un Christ vivant? Ou est-ce que notre relation, elle se borne à venir une fois par semaine à un culte, et peut-être à essayer de lire la Bible tous les jours en cochant les jours où on le fait, et puis en se sentant très coupable pour les jours où on n'y arrive pas? Ou est-ce qu'on pense à lui? Est-ce qu'on pense à lui autant qu'il pense à nous? Le psalmiste dit dans le psaume 139, je crois, que les pensées de Dieu à son égard, et c'est valable pour tous les hommes, sont innombrables, plus grande que les grains de sable sur la plage. Il y a beaucoup de galets sur la plage de Nice. Hier, j'ai entendu dire que c'était devenu la promenade des Chinois. Il y a eu 5000 Chinois qui sont venus à Nice et qui se sont fait photographier, mais très tôt le matin pour ne pas gêner. On les remercie. Mais des galets, un galet, ça représente des... je ne sais pas, mais des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de grains de sable. Dieu se préoccupe de moi, il se préoccupe de toi, il se préoccupe de nous tous avec la même intensité. Et nous, on a tendance à dire, c'est gentil Pierre, mais on sait bien que ce n'est pas possible. Et en fait, on voit que la science, la technologie devrait nous aider à comprendre les vérités de la Bible. Aujourd'hui, il y a des milliards de gens qui sont connectés par Internet. Les ordinateurs permettent à une administration de suivre les moindres centimes que vous avez encaissés l'année dernière. L'esprit, la puissance intellectuelle, entre guillemets, des ordinateurs est une faible réflexion de la puissance de l'intelligence divine. On a tendance à juger Dieu à l'aune, à la mesure de nos capacités, sans comprendre que ses voix sont infiniment au-dessus de nos voix, ses pensées infiniment au-dessus de nos pensées. Il faut qu'on cesse d'abaisser Dieu dans nos vies, dans nos imaginations, dans nos pensées. Dieu est d'une puissance fantastique, une puissance merveilleuse et une puissance redoutable en même temps. Et Jésus les marche avec eux et il aime bien poser des questions. Les bons professeurs, ce sont ceux qui vous posent des questions. Ce n'est pas ceux qui viennent régurgiter des choses qu'ils ont apprises eux-mêmes d'autres professeurs, qu'ils ont bien étudiées, bien mémorisées et qu'ils vous resservent. Non, c'est des gens qui interagissent avec vous, qui vous demandent ce que vous pensez. J'avais un professeur de maths qui disait que on pouvait remercier Dieu pour les intégrales. Il nous faisait réfléchir en disant qu'en fait, même si on ne connaît pas vraiment la formule mathématique de certains phénomènes physiques, en faisant ce qu'on appelle en maths des intégrales, ça nous laisse une grande marge d'erreur, mais ça touche en fait le même principe. Et je me rappelle, j'y pense encore, j'ai toujours pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais il avait posé une question qui me disait il y avait quelque chose dans les maths que j'avais... Ce n'était pas simplement une formule, des formules à appliquer. Et les maths, entre parenthèses, c'est quelque chose qui devrait aussi vous inciter à penser qu'il y a un Dieu qui existe. Ce n'est pas un chaos sans nom, un chaos cosmique que notre existence, que l'existence de l'univers... mais qu'il est régi par des lois. S'il y a des lois, il y a un législateur. Qui c'est qui a fait que l'attraction de corps entre eux est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare? Et donc là, Jésus, il fait cette méthode, ce qu'on a appelé la méthode socratique, il pose des questions. Mais de quoi vous parlez? Et je vous invite, quand vous partager l'évangile aussi, à poser des questions aux gens, plutôt que de leur dire « mais moi je crois en Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui t'aime et qui veut venir dans ton cœur ». Non, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de la vie après la mort. Est-ce qu'ils croient qu'ils sont le résultat d'un accident cosmique? Pourquoi est-ce qu'ils trouvent que des choses sont justes et injustes s'il n'y a pas de Dieu? Parce que lorsqu'on commence à réfléchir, on n'est plus apte à remettre en cause nos doctrines, nos croyances. Et donc, il marche avec eux. 2 heures de marche, peut-être un peu plus, s'il s'arrêtait pour marquer des points. C'est bien pour apprendre à se connaître de marcher ensemble. Une des choses que j'aime bien lorsqu'on va faire des retraites, le temps qu'on passe ensemble au chalet, aux enfants à la montagne, est formidable, mais souvent c'est quand on est en randonnée avec une personne qu'on ne connaît pas très bien et qu'on commence à discuter, qu'on découvre la personne. Et là, il s'arrête, donc ça va prendre plus que 2 heures. Ils s'arrêtent et ils ont l'air attristés, ils sont tristes. L'un s'appelle Cléopas, l'autre on ne sait pas son nom. Il est question dans d'autres passages d'un dénommé Clopas. Certains pensent qu'il s'agit de la même personne, d'autres que ce sont des personnes différentes. Si c'est la même personne, la tradition dit que Clopas, c'était le frère de Zacharie, je crois. Donc ça aurait été, c'était un beau-frère de Marie plutôt. Mais peu importe. Donc c'était peut-être, l'autre c'était peut-être une femme. Peut-être que c'était un couple, Cléopas et sa femme. Elle ne s'appelait pas Cléopâtre, même s'il avait peut-être un beau nez. L'un d'eux lui répondit, mais c'est pas possible, tu demandes de quoi on parle, de quoi on parle, mais tu n'es pas au courant. Ton iPhone est déconnecté, tes transistors ne marchent plus, tu n'as pas la télé. Ils n'en reviennent pas que quelqu'un puisse être sur la route d'Emmaüs et ne pas savoir ce qui s'est passé concernant ce Jésus. Ils sont choqués, presque énervés. Verset 9, ils parlent de ce qu'ils savent de Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une bonne question à poser aux gens auprès de qui vous témoignez. Leur demander, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ ? Et certains, comme ces petites filles, n'auront peut-être rien, aucune notion de qui est Jésus-Christ. D'autres penseront peut-être que c'est le fondateur du christianisme ou que c'est un personnage imaginaire. Mais demandez. Et là, ils vont dire qui il était pour eux. Pour eux, il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils avaient déjà une vision assez correcte des choses, même s'ils ne disaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Et puis ils ajoutent que nos principaux prêtres, nos chefs religieux, l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Ce verset a souvent été utilisé pour dire que les Juifs, c'était la nation déicide qui avait tué Dieu. On sait que ce sont les Romains, les soldats romains qui ont procédé à l'exécution, au supplice de la croix. Et puis en fait, on sait, si on connaît la parole, que c'est moi qui ai crucifié Jésus-Christ. Parce que par mes péchés, au vu de son amour qui voulait me pardonner, il a dû payer la punition suprême. Et puis ils donnent leurs espérances messianiques. Et c'est ce qui imprègne tous les récits des évangiles, c'est que l'enthousiasme des personnes, c'était souvent simplement parce qu'on pensait qu'on allait se libérer de l'envahisseur romain, que le Messie dont parlait la Bible, qui était un Messie triomphant, allait triompher de l'opposition romaine. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tous ces événements qui viennent de se produire, on est le troisième jour, et font peut-être une allusion consciente ou inconsciente au fait qu'ils avaient entendu dire qu'il disait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Jésus lui-même l'avait annoncé. Mais ils sont loin de penser que c'est possible. Ils sont désespérés, ils sont attristés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas foi en la parole de Dieu. Ils n'ont pas foi dans les prophéties de l'Ancien Testament, de leur Bible à eux. Ils sont désespérés sans cause, sans raison valable. Peut-être pour certains qui connaissent, je crois que c'est le poème de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. » Et ce qui le chagrine le plus, à la fin il le dit, « Il pleure sans raison. Dans ce cœur qui est cœur, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. » Tout ça pour dire que la chose la plus bête, c'est et souvent la plus triste, c'est d'être triste sans raison d'être triste. Ses disciples avaient toute raison d'être joyeux, d'avoir le cœur rempli d'allégresse. Et on va voir qu'ils vont cheminer sur ce chemin d'Emmaüs et qu'ils vont être remplis d'allégresse et de joie, de courage pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous, moi, vous, sans doute, il y a des moments où on est désespéré. Il y a des moments où on n'a plus d'espoir. Il y a des moments où on se dit « Dieu m'a oublié, Dieu, s'il existe, m'a oublié. » Il suffit de voir la vie que je mène, les circonstances présentes. Mais là encore, c'est être un homme, une femme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre les promesses de Dieu. Je connais certaines situations aujourd'hui parmi vous qui peuvent être désespérantes, mais sachez que vous n'avez pas de raison de rester désespéré. La foi chrétienne, c'est une foi qui donne l'espoir. Pas un vain espoir de dire « Bon, ben ça va tellement mal que ça peut que s'améliorer. » Un peu comme le chômage est au plus bas, ça va repartir. La courbe va s'inverser. On est au bord du gouffre, faisant un pas en avant. Non. Il leur dit, et il y a une petite lueur d'espoir. Et la lueur d'espoir, vous pouvez aussi l'amener dans la vie des gens désespérés qui vous entourent. Ne vous y trompez pas, nous sommes entourés par des gens désespérés. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches, beaux, en bonne santé, célèbres, qu'ils sourient tout le temps ou qu'ils font semblant de sourire, qu'ils ne sont pas désespérés. Parce que se dire que cette vie sur terre, elle n'a pas de raison d'être, qu'elle est vouée à la destruction dans une tombe ou dans un incinérateur, on se dit pourquoi tant de souffrance pour rien du tout au bout du compte. Cette lueur d'espoir, elle vient parce que quelqu'un a témoigné de quelque chose. Les femmes qui sont venues voir les disciples, elles n'avaient pas tout compris, mais il y avait quelque chose qui les avait interpellées, et puis on leur avait dit de ne pas chercher le vivant parmi les morts. Et elles étaient revenues le dire aux disciples. Pierre et Jean avaient vu qu'il y avait effectivement un tombeau vide. Et ça, c'est une lueur d'espoir. Une lueur, c'est pas grand-chose. Je sais que quand je me suis retrouvé à l'hôpital après mon accident de canyoning avec le dos cassé, les nuits étaient très longues. Je me réveillais, j'avais mal, et c'était noir. Il fallait que j'attende. J'avais remarqué, j'avais le rideau du volet était levé. J'ai demandé qu'on n'y touche pas, de telle façon qu'à un moment donné, le matin, je voyais une lueur d'espoir. Je voyais l'étoile du berger. Juste un petit point. Mais je savais que le jour n'était pas loin, qui était beaucoup plus facile à endurer que les nuits. Et vous avez des gens autour de vous qui sont dans le noir. Et vous pouvez leur dire que vous avez une lueur d'espoir à leur communiquer. Et ils racontent, ouais, on a été, et nous ont fort étonnés, ces femmes qui sont revenues en nous disant qu'elles avaient vu quelque chose, un tombeau vide. Et puis que des anges leur étaient apparus pour leur dire qu'il était vivant. Vous pouvez être des anges qui vont dire aux autres que Jésus est vivant. Et peut-être qu'ils vont demander, comme ces deux enfants, à Jésus d'avoir une relation personnelle avec eux. Et ils disent, on aimerait bien être, se réjouir quelque part, mais Pierre et Jean sont allés au tombeau et ce que les femmes ont dit a l'air d'être, ils ont constaté ça, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Moi, si je voyais un miracle, alors là, je croirais dans ta religion. Et on voit le récit des évangiles, c'est miracle après miracle. Mais un miracle ne fait pas adhérer le cœur. Il peut faire susciter de l'étonnement, refait le meuleux. Oh, ça, comme un tour de carte ou un tour de prestidigitation. Mais ils ne l'ont pas vu. Notre tendance, c'est de dire « montre-moi et je croirai, si je vois, je croirai ». Jésus nous dit « crois et tu verras ». Ne fais pas ta tête de mule, ouvre ton cœur et tu verras, je me montrerai à toi si ton cœur est ouvert. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Ça, c'est un verset que vous pouvez discuter avec vos amis juifs. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Ce Jésus dont vous nous parlez, ça ne peut pas être le Messie parce que l'Ancien Testament parle du Messie triomphant. Et ce que vous nous parlez d'un Messie qui s'est fait crucifier, c'est pas possible. Le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Et là, il va étayer cette affirmation en disant qu'il commence par Moïse et par tous les prophètes et il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors là, je ne sais pas combien je donnerais pour avoir l'enregistrement de cette conversation. La cassette de la route d'Emmaüs. Si vous la trouvez, faites-moi signe. J'espère que quand on sera là-haut, auprès du Seigneur, peut-être qu'il nous la repassera. Ce sera le grand événement annoncé sur Facebook. Ce jeudi, la cassette d'Emmaüs. Waouh! Alors pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis qu'on ait cet enregistrement, ce détail? Parce qu'en fait, il est à notre portée. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, et toutes les références faites dans le Nouveau Testament au passage de l'Ancien Testament qui font qu'on est à même d'imaginer assez justement les arguments ou les passages que Jésus a pu utiliser pour leur montrer qu'en fait, toutes les Écritures le concernent. Et là, ils sont émerveillés. Ils vont dire plus loin que leur cœur brûle à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà eu le cœur qui brûle en écoutant, en lisant, en entendant la parole de Dieu? Si votre cœur ne brûle pas, si lorsque vous lisez la Bible, vous attendez d'avoir terminé le passage du jour pour pouvoir le cocher, c'est que vous n'avez pas rencontré Christ. Quand on rencontre le Christ, on veut marcher avec lui. On veut être en communion avec lui. Alors, on a pas le temps, le temps nous manque d'imaginer un peu cette conversation, mais quelques pistes. Il y a plusieurs ouvrages, des livres qu'on peut recommander, des livres que vous pouvez trouver à les librairies évangéliques, dont nous faisons un dépôt ici, comme par exemple l'Ancien Testament parle de Christ. Il nous explique que dans la Genèse que Jésus est le Dieu créateur, dans l'Exode il est l'agneau pascal, dans le Lévitique il est le sacrifice pour le péché. Dans le livre des Nombres, il est élevé tel le serpent de bronze pour qu'on soit guéri. Dans le Deutéronome, il est le vrai prophète, et ainsi de suite, on peut continuer. Mais en parlant de Moïse, donc en parlant du récit fait par Moïse de la Genèse, sans doute il leur a expliqué que la semence de la femme qui avait eu le talon mordu, le talon blessé, c'était lui qui allait écraser la tête du serpent. Il aura peut-être montré dans la Genèse 5 que la liste des patriarches qui sont listés, Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalaleel, Yéred, ça c'est dans la liste des patriarches descendants d'Adam jusqu'à Noé. Et en fait, si on prend le sens biblique, le sens hébraïque de ces noms qui nous sont donnés, Adam, ça veut dire l'homme, c'était le rouge, la couleur de la terre dont l'homme avait été fait, ça désignait l'homme. Noé, c'était le repos. C'était... Et en fait, si on prend la liste de ces patriarches, on a la phrase suivante. À l'homme est réservé un mortel chagrin, mais le Dieu béni viendra d'en haut, annonçant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos, consolation. Waouh ! C'est pas par hasard. C'est pas quelqu'un qui a fait des livres au hasard, qui a raconté les histoires de la fée Clochette et puis qui a essayé de faire que ça colle bien au bout du compte. J'ai trop aimé le contraste entre lire la fée Clochette ou alors les amener à la Bible. Et merci à Sébastien de t'avoir encouragé. Un homme de foi. Et puis il leur a parlé du déluge, que l'arche de Noé, en fait, c'était lui. Si nous sommes en lui, nous éviterons la destruction à la fin des temps. Si nous sommes en sécurité en lui, nous éviterons la destruction. Et puis il a dû sans doute leur dire que l'homme, le parent proche dans le livre de Ruth, c'était lui. Parce que pour pouvoir racheter, que ce soit une descendance, un territoire ou une personne, il fallait être un parent proche, il fallait avoir la volonté de le faire, il fallait avoir les moyens de le faire. Et lui, il s'est fait homme, il est devenu un parent proche. Il a les moyens de nous racheter. Et il a la volonté, il l'a fait. Il leur a expliqué que le bon berger du psaume 23, c'était lui. Il leur a expliqué que le Messie dans Daniel, le Messie qui allait établir un royaume qui ne cesserait jamais, c'était lui. Et en fait, toute notre étude de l'Ancien Testament, ça parle de Jésus, Jésus et de Jésus. Il est le seul chemin, mes frères et sœurs, pour aller au Père, pour connaître Dieu, pour être dans cette relation de salut. Ce salut, c'est c'est un pardon, mais c'est plus qu'un pardon, c'est de nous considérer réellement comme complètement innocents de nos péchés. Ça dépasse l'entendement. On a l'impression que c'est un peu un tour de magie, mais qu'au fond de nous-mêmes, on sait bien qu'on reste des pécheurs. Non, il nous dit que si nous acceptons le Fils, nous venons au Fils, alors nos péchés ont disparu. C'est lui qui les a portés et nous avons la justice, l'innocence complète de Jésus-Christ et nous pouvons paraître en présence du Dieu Tout-Puissant. Et donc, il leur expliquait, c'est vrai que le temps nous manque pour rappeler tous les grands passages de l'Ancien Testament et même les petits. Lorsque vous lisez votre Bible, cherchez toujours où est Jésus dans le récit que je lis. Comment ça se rapporte à Jésus? D'abord, ça va rendre la lecture passionnante, un peu comme lorsque vous jouez avec ces jeux, où est passé Aldo, ou je ne sais pas comment, où se cache Charlie? Charlie Hebdo? Non. Tous les jours, vous regardez. Non. Cherchez Jésus parce qu'il se trouve là. Et puis, lorsqu'ils arrivent enfin près du village, il s'invite pas, il se force jamais, c'est un gentleman. Et il leur demande, il l'invite plutôt à venir avec eux, et il lui invite à un repas. Et là, c'est lorsqu'il prend le pain qu'il le dit la bénédiction, qu'ils l'auront et qu'il leur donne, qu'ils le reconnaissent. Alors ne pensez pas qu'ils ont reconnu la façon dont il avait pris le pain à la Sainte-Seine, parce qu'ils n'étaient pas là, eux, ces deux-là. Ils l'ont peut-être vu à d'autres occasions, mais surtout, ils ont peut-être vu les plaies dans ses mains, ou le blocage supernaturel qui ne leur permettait pas de le reconnaître les laisse le voir et le reconnaître. Et puis là, il se passe encore quelque chose de mystérieux. Pouf, il s'évanouit, il disparaît. Et là, ils aimaient bien se parler. C'était soit un couple uni qui communiquait bien, soit deux amis très proches qui aimaient parler ensemble. Ils s'étaient isolés du chagrin qui régnait à Jérusalem, mais ils parlaient ensemble. Et là, ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. C'est ce que nous essayons de faire semaine après semaine, c'est faire l'exposition ou l'explication de la parole de Dieu. On ne prend pas un texte pour en faire un point de départ, pour parler de n'importe quoi, on essaye d'examiner le sens logique, le sens premier de ces paroles qui sont enregistrées pour nous et que nous avons à notre disposition. Et là, il doit être tard parce que le jour est bien avancé, ils ont dîné, et là du coup, la parole, de voir que la parole était la vérité, que Jésus était révélé dans sa parole, qu'il était vivant, ils sont prêts à refaire les 12 kilomètres en sens inverse. Je vous assure que quand on a compris qui est Jésus, combien il nous aime, on n'est pas radin avec nos efforts pour le faire connaître autour de nous. Ce n'est pas pour mériter son approbation, gagner des points. C'est parce qu'on est tellement émerveillé qu'on veut faire partager notre joie. C'est toujours très triste lorsque on se trouve seul devant un beau spectacle de la nature et qu'on n'a pas de... Au moins si on a un appareil photo, un smartphone, on peut prendre une photo et puis essayer de... Mais on veut partager ce qui est merveilleux, ce qui est beau. Et là, ils reviennent pour parler à leurs compagnons, les 11 et leurs compagnons, et ils leur disent... Ses disciples à Jérusalem leur disent que le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et il doit avoir un grand sourire. Si vous saviez ce qu'on vient de vivre. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est, elle est indéniable, Seigneur. Elle est la vérité. Et il y a des preuves extra-biblique, juste analyser les passages, analyser les thèmes, voir les correspondances entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les promesses faites, les promesses réalisées, l'improbabilité que ces promesses soient réalisées à la lettre comme elles l'ont été. Seigneur, fortifie notre foi. Aide-nous à ne pas faire nos têtes de mule, Seigneur. Aide-nous à cheminer avec toi. Chaque jour, Seigneur, à prendre beaucoup de plaisir à te connaître et à vivre avec toi, à connaître ta parole qui te révèle, Seigneur. Aide-nous à te chercher dans les Écritures, aide-nous à te chercher dans les événements de notre vie, Seigneur. Merci que pour les convaincre, Seigneur, il s'est pas simplement fait reconnaître, ça aurait été déjà formidable, mais il est allé chercher la preuve de ce qu'il avançait, de sa résurrection dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Aide-nous, Seigneur, à la connaître et à la partager. Aide-nous à apporter une lueur d'espoir à ceux qui sont désespérés autour de nous. Te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.